filé 15h à Paris, 13h en temps universel, 9h à New York. Dernière demi-heure de RFI Midi consacrée à l'actualité de Haïti et des Amériques. Actualité bouleversée aujourd'hui après cette attaque massive israélienne sur les installations nucléaires iraniennes. Nous serons en direct des États-Unis avec Loubna Anaki pour faire un point sur les réactions aux États-Unis. Nous serons aussi avec Romuald Ciora. Il est directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, auteur de L'Amérique éclatée plongée au cœur d'une nation en déliquescence, sorti le 15 janvier aux éditions Armand Collin. Dans cette demi-heure également, interview hors du temps avec Benoît d'Afrique, jeune poète haïtien. Il vient de sortir Parole en état de siège aux éditions La Veilleuse, son premier recueil de poésie. Et puis comme chaque jour, le journal des Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour.
En Martinique, la peine de Rodrigue Petitot a été réduite en appel, ce qui n'empêchera pas le leader du RPRAC de se pourvoir en cassation.
C'est en tout cas ce qu'envisage Rodrigue Petitot, malgré la réduction de sa peine. Nous entendrons tout à l'heure son avocat au micro de la première Martinique.
À tout à l'heure, Benoît. Mais tout d'abord, c'est le journal international avec vous, Gilles Moreau. L'Iran promet de riposter à ce qu'il qualifie de déclaration de guerre.
Israël a donc déclenché la nuit dernière des frappes massives sur des sites militaires et nucléaires en Iran, menées par quelques 200 avions contre une centaine de cibles. Elles ont notamment touché la capitale Téhéran, mais aussi une usine d'enrichissement d'uranium. Notre opération lancée au cœur du programme nucléaire de l'Iran durera autant que nécessaire, a prévenu le Premier ministre israélien. Daniel Valo, bonjour.
Bonjour.
Les frappes menées par l'armée israélienne, Daniel, sont sans précédent.
Oui, avec trois objectifs, la défense sol-air iranienne, les installations nucléaires de l'Iran et plusieurs responsables de l'armée et du programme nucléaire. Sur la défense sol-air, l'armée israélienne affirme avoir détruit plusieurs dizaines de cibles, des lanceurs de missiles et des radars, de quoi affaiblir considérablement la capacité de l'Iran à intercepter les tirs israéliens. Sur les installations nucléaires, ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que le site d'enrichissement de Natanz a été visé et touché plusieurs fois. Israël affirme avoir atteint, ce qui est très important, les installations souterraines du site. Enfin, dernier objectif, l'élimination physique d'un certain nombre de responsables militaires et scientifiques. L'attaque a tué les plus hauts gradés iraniens, dont le chef d'état-major celui des gardiens de la Révolution, ainsi que le commandant de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution. Autre victime, au moins 6 experts scientifiques dans le domaine du nucléaire. L'opération israélienne a donc été à la fois massive et extrêmement précise devant l'ampleur de ces frappes et devant cette opération la plus importante menée par Israël contre l'Iran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé ce matin que cette attaque constituait une déclaration de guerre.
Et Israël, par mesure de précaution et de façon très rare, a décidé de fermer toutes ses ambassades dans le monde. Aux États-Unis, grand allié de l'État hébreu, le président Trump a dit sur la chaîne Fox News qu'il avait été prévenu des frappes israéliennes, des frappes auxquelles Washington n'a pas été associé. Alors que son pays mène des négociations indirectes avec Téhéran sur son programme nucléaire, le président américain a exhorté la République islamique à conclure un accord mettant en garde contre des attaques encore plus brutales.
Et on reparlera des relations de Donald Trump avec Benjamin Netanyahou, de ses frappes israéliennes en Iran dans quelques minutes, avec Romuald Ciora, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS.
Dans ce dossier, le sultanat d'Oman joue le rôle de médiateur. Il a réagi aux frappes israéliennes en condamnant une escalade dangereuse. L'ONU, de son côté, a appelé les deux parties à la retenue maximale, alors que des pays de la région, comme l'Arabie Saoudite et la Turquie, ont dénoncé l'attaque israélienne. Paris a appelé toutes les parties à la retenue et la Chine a offert ses bons offices. La situation explosive a fait bondir les cours du pétrole de plus de 12% ce matin. Le marché redoute les conséquences sur les approvisionnements d'or noir. Enfin, les compagnies aériennes du Golfe, comme la principale Emirates, ont annulé de nombreux vols. En pleine escalade entre Israël et l'Iran et à 5 jours d'un rendez-vous décisif à l'ONU, Emmanuel Macron entretient le suspense sur la reconnaissance par la France d'un État palestinien. On pourrait en savoir un peu plus dès aujourd'hui. Le président français intervient cet après-midi à Paris en clôture d'un forum de la société civile, le forum qui va lancer un appel pour la solution à deux États.
L'économie, Meta serait prêt à investir 14 milliards de dollars dans une start-up.
La société Scale AI, spécialisée dans le traitement des données nécessaires au bon fonctionnement de l'intelligence artificielle, ce serait le deuxième plus gros investissement de la maison mère de Facebook après les 19 milliards de dollars déboursés pour acquérir WhatsApp. Agnieszka Kumor.
Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé, mais le Wall Street Journal estime la participation de Meta à 49%. Pour y parvenir, le groupe de Mark Zuckerberg devrait débourser 14 milliards de dollars. Fondé en 2016, Scale AI fournit des données aux entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle et vérifie les réponses des modèles manuellement via des milliers de prestataires dans les pays en développement. Meta était déjà entré au capital de la jeune pousse de San Francisco l'an dernier, comme Amazon, Intel ou le champion de puces IA Nvidia. La présente opération vise à relancer la maison mère de Facebook dans l'intelligence artificielle après un relatif échec de son modèle IA Llama 4. Tout comme Meta, Scale AI travaille entre autres pour le Pentagone. Les deux sociétés ont conçu un modèle dédié aux recherches dans les documents classifiés. Meta développe par ailleurs les casques connectés pour l'armée et Scale AI a décroché un contrat pour les véhicules de combat robotiques.
C'est Agnieszka Kumor.
En Californie, la communauté latino-américaine visée par une vague d'arrestations.
Oui, des travailleurs agricoles sont actuellement recherchés et arrêtés sur ordre de l'administration fédérale. Les raids sont effectués dans des fermes où sont employés des dizaines de milliers de travailleurs sans papier. On écoute Elizabeth Starter, la vice-présidente d'un syndicat de Californie qui défend les droits des ouvriers agricoles.
La communauté des travailleurs agricoles est en état d'alerte maximale. Il y a beaucoup de peur parmi les ouvriers. Nous assistons à ce qui ressemble à une campagne ciblée pour terroriser ces communautés, avec des hélicoptères qui survolent les champs pour les effrayer. Les familles de travailleurs agricoles ont peur et changent leurs habitudes. Les parents qui travaillent en temps normal au même endroit évitent maintenant de le faire pour que l'un d'eux puisse s'occuper des enfants en cas de rafle. Malgré tout, après un jour ou deux, ils vont revenir travailler parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce ne sont pas des gens qui ont des activités criminelles, ce sont des gens qui travaillent dur et qui essaient seulement de nourrir leur famille. En fin de compte, aussi effrayés soient-ils, ils continueront d'aller travailler comme ils l'ont toujours fait.
Un propos recueilli par Daniel Valo en France après le choc, le recueillement à Nogent en Haute-Marne. Une marche blanche a lieu en fin de journée en hommage à une surveillante de collège. Elle a été tuée mardi par un élève de 14 ans, meurtre qui a déclenché une vague d'émotions et de réactions politiques en France.
À Nice, dans le sud de la France, clap de fin aujourd'hui pour le sommet des océans.
Oui, sommet qui n'a pas pu éviter la question du changement climatique. Tout au long de la semaine, les petits États insulaires ont réclamé à corps et à cri des actions contre le réchauffement qui entraîne la hausse du niveau de la mer. Jeanne Richard.
Le niveau de l'océan monte et vite. D'ici 2050, 60% des îles Tuvalu dans le Pacifique seront régulièrement submergées par les vagues. Fela Titeo, premier ministre des Tuvalu.
L'océan est tout pour nous, il nous nourrit, c'est notre source de développement économique et de prospérité. Mais l'océan, maintenant, vu le réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer, est devenu la plus grande menace pour nos vies.
Et à Nice, son message aux grands pays développés est clair.
Ils doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est la solution la plus simple au changement climatique.
Le petit atoll a bien mis en place un plan d'adaptation pour gagner du temps et survivre à l'augmentation du niveau de la mer. Mais encore faut-il le financer.
Tuvalu partage la frustration de beaucoup de petits États insulaires sur l'accès au financement. J'espère que la communauté internationale entend notre appel pour simplifier les règles d'accès à ces aides financières.
Les îles du Pacifique n'ont accès qu'à 0,22% des financements verts. Et pour obtenir une première aide de 40 millions de dollars, il aura fallu presque 10 ans aux îles Tuvalu. Jeanne Richard, Nice, RFI.
Ainsi s'achève le journal 15h09 ici à Paris. Bonne journée sur RFI.
Bonne journée Gilles Moreau.
Merci.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Alban Leprince.
Et nous rejoignons tout de suite Loubna Naki. Bonjour.
Bonjour.
On a parlé un peu plus tôt de ces frappes israéliennes qui ont touché les installations nucléaires iraniennes. Comment Washington réagit aujourd'hui à ces frappes ?
Eh bien, ce matin, Donald Trump a averti l'Iran que les prochaines attaques pourraient être encore plus brutales. Dans un long message sur son réseau social Truth Social, le président américain a estimé qu'il y avait déjà eu énormément de morts et de destructions et il a exhorté Téhéran à, je cite, conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien. Hier, dès les premières heures des frappes israéliennes, c'est son chef de la diplomatie qui a immédiatement fait savoir qu'Israël avait, je cite, agi de façon unilatérale et que les États-Unis n'étaient pas impliqués. Marco Rubio a également précisé que la priorité absolue de Washington était d'assurer la sécurité des troupes américaines présentes dans la région. Soyons clairs, l'Iran ne doit pas prendre pour cible les intérêts ou le personnel des États-Unis, a mis en garde Marco Rubio, qui anticipe une probable réponse militaire de Téhéran, une mise en garde reprise aussi par d'autres élus républicains qui appellent la Maison-Blanche à répondre de façon forte si jamais les intérêts américains étaient visés.
Donald Trump avait tenté de dissuader Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, de frapper l'Iran. Le président américain n'a donc pas été entendu. Est-ce qu'il a encore l'ascendant, le pouvoir sur le gouvernement israélien ?
Oui, alors il faut rappeler que certes, comme le disent les Américains, Israël a mené ses frappes de façon unilatérale, mais Washington avait tout de même été prévenu. D'ailleurs, hier, Donald Trump disait qu'il y avait de grandes chances que l'État hébreu passe à l'action. Et on sait que ces derniers jours, Washington avait aussi, par précaution, réduit son personnel diplomatique dans la région, notamment en Irak. Mais c'est vrai que le fait que ces frappes aient eu lieu malgré, on va dire, la légère opposition affichée par les Américains, elle n'est pas forcément une bonne chose pour Donald Trump. Cela donne l'impression, justement, que sa voix ne compte pas auprès des Israéliens. Cela touche aussi un peu son image, lui qui se vante d'être un faiseur de paix. Et puis, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il n'a pas réussi à mettre fin à la guerre à Gaza, ni à la guerre en Ukraine, comme il s'y était engagé. Une fois qu'on a dit tout cela, il ne faut pas oublier une chose, Washington reste l'allié indéfectible d'Israël. Alors même si ces frappes créent éventuellement quelques tensions entre les deux partenaires, il est peu probable que cela change quoi que ce soit au soutien américain.
L'une des questions qui se pose aussi, Loubna, c'est celle des négociations sur le nucléaire iranien. De sixième pourparlers devait avoir lieu dimanche. Est-ce qu'ils sont maintenus ?
Côté américain, oui. Steve Witkoff, qui est chargé par Donald Trump de mener ces négociations, a fait savoir qu'il comptait toujours se rendre à Oman. Donald Trump a déclaré à la chaîne CNN ce matin qu'il espérait que Téhéran, je cite, « vienne à la table pour négocier et trouver vite un accord ». Mais les autorités iraniennes, elles, ont déjà fait savoir qu'après les attaques israéliennes, elles ne comptaient plus participer à ces discussions.
Merci beaucoup, Loubna Anaki, en direct des États-Unis pour RFI. Je vous signale à l'instant qu'une forte détonation vient d'être entendue à Hamedan, dans l'ouest de l'Iran. Les sirènes d'alerte retentissent quant à elles dans le nord d'Israël, selon l'armée.
RFI Midi.
Bonjour Romuald de Sura.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, auteur de L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence, sorti en janvier aux éditions Armand Collin. Est-ce qu'on peut dire que cette offensive israélienne inédite en Iran et la riposte de Téhéran représentent un camouflet pour Donald Trump ?
Écoutez, je n'irai pas jusque-là. Donald Trump avait effectivement encore hier appelé Netanyahou à ne pas attaquer Israël. Néanmoins, les États-Unis savaient que cette attaque allait avoir lieu. Lorsque Trump était en tournée au Proche-Orient il y a quelques semaines, il en avait d'ailleurs averti son partenaire saoudien. Donc, ce n'est pas une surprise pour Washington. Effectivement, on peut avoir l'impression que Netanyahou n'a pas totalement suivi la consigne de Trump. Mais si on voit cela un petit peu plus en détail, n'oublions pas que Donald Trump avait donné 60 jours à l'Iran pour accepter le deal. Netanyahou a justifié son attaque en disant que nous étions le 61e jour de négociation. Et donc, oui, il n'a pas tout à fait suivi les recommandations de Donald Trump, mais on ne peut pas non plus parler d'un camouflet. On pourrait voir cela aussi comme une stratégie entre les deux alliés. Il y a, si je puis me permettre, le bon flic et le mauvais flic. Vous avez d'un côté Netanyahou qui attaque et Trump qui, encore ce matin, a dit « Revenez à la table des négociations, nous voulons traiter avec vous. Si vous ne traitez pas, ça va être terrible, terrible. L'Iran va se retrouver en cendres. » Quelques minutes après, il y a à peu près 20 minutes, je crois, il a d'ailleurs déclaré qu'il était très content de ce qui s'était passé, etc. etc. Donc oui, petit camouflet, entre guillemets, mais Trump était au courant et tout cela, de toute façon, va dans le sens de la stratégie américaine, puisque ce que Trump veut éviter, c'est une guerre totale, c'est-à-dire une guerre terrestre, et cette guerre terrestre entre Israël et l'Iran n'aura sans aucun doute pas lieu.
Donald Trump avait tout de même promis d'être le grand pacificateur du Proche-Orient, à Gaza, avec l'Iran. Force est de constater que ça ne fonctionne pas.
Ah oui, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Que ce soit en Ukraine où, évidemment, la guerre continue, Gaza, la situation ne fait que s'envenimer, et maintenant, entre Israël et l'Iran. Trump, effectivement, avait pour objectif, et là on peut parler d'un échec, d'un camouflet, avait pour objectif d'arriver à un nouveau deal avec l'Iran. Alors, il y a une certaine ironie, hein, c'est Donald Trump qui, lors de son premier mandat, a quitté l'accord qui avait été passé entre les alliés et l'Iran sur le nucléaire iranien, qui était un accord pas si mauvais que cela, pour se retrouver aujourd'hui dans la situation où il est à supplier les Iraniens de revenir dans un accord plus ou moins similaire. Néanmoins, oui, sur la scène internationale, Trump est aujourd'hui en difficulté, ce qui explique d'ailleurs sa politique de répression intérieure aujourd'hui aux États-Unis pour montrer qu'il a toujours des muscles. Mais une fois encore, en ce qui concerne la situation entre l'Iran et Israël, à l'heure qu'il est, cela va encore un tant soit un minimum dans le sens de la stratégie américaine. Ce que les Américains espèrent, c'est que l'Iran cède, revienne à la table des négociations et accepte leurs propositions. Par contre, personnellement, je ne crois pas que l'Iran acceptera de revenir aux négociations ou du moins d'accepter le deal proposé par Trump. Et là, à ce moment-là, on pourra parler d'un vrai camouflet.
Romuald Sciorra, vous le dites, hein, Donald Trump est un homme de deal. Les deals avec lui, ça fonctionne très bien dans le business, dans la diplomatie, un peu moins. Dans ses toutes dernières déclarations sur son réseau social Truth Social, il y a quelques heures, le président américain a sommé l'Iran de conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien. Sinon, il prévient que les prochaines attaques seront encore plus brutales. Que pensez-vous de ces déclarations ?
Bah écoutez, ça va dans le sens de ce que je vous disais précédemment. Le bon flic et le méchant flic. Vous avez le type qui est au commissariat, le méchant flic qui le tabasse, et le gentil qui lui dit « Écoutez, vraiment, je suis désolé, il est brutal, parlez-moi, mettez-vous, enfin, videz votre sac et je vous assure, vous n'aurez plus de problème avec mon collègue. » C'est un petit peu la même chose. C'est pourquoi je parlais d'une forme de stratégie commune. Trump espère... L'administration Trump espère vraiment encore que les Iraniens accepteront la proposition des Américains. Je pense qu'ils font erreur et à ce moment-là, Trump évidemment lâchera totalement l'Iran et laissera Netanyahou se déchaîner sur ce pays.
Jamais Donald Trump va rejoindre Israël dans ses frappes sur l'Iran ?
À l'heure qu'il est, il est difficile de pouvoir assurer quelque chose. À l'heure qu'il est, non. Les États-Unis ne devraient pas, tant que le deal est encore sous la table, se joindre à Israël. Si l'Iran devait fermer la porte à tout compromis avec les Américains, les choses pourraient être un petit peu différentes. Mais n'oublions pas encore qu'on parle d'une guerre totalement asymétrique. Tant qu'elle n'est pas sur le terrain, il faut quand même se rappeler que, par exemple, l'aviation iranienne est constituée d'appareils datant d'avant 1979. Je ne sais pas si vous imaginez. La marine iranienne ne pourrait résister à une attaque américaine que quelques heures, donc quelques jours à une attaque israélienne. Les Iraniens ne possèdent que des missiles balistiques et on sait que le dôme de fer protège en grande partie Israël. Donc bref, si les bombardements devaient, et les bombardements israéliens vont se poursuivre du moins pendant quelques jours, si ce n'est une semaine, si cela devait se poursuivre poursuivre avec une plus forte intensité si l'Iran répond d'ailleurs. Malheureusement, il pourrait effectivement bombarder quelques quartiers d'habitation. Il y aurait des civils israéliens qui seraient tués, mais cela demeurerait minime en comparaison des dégâts que Israël peut infliger à l'Iran. Où ça pourrait dérailler, c'est s'il y avait une guerre terrestre. Là, c'est différent. L'Iran peut aligner à peu près 1 million d'hommes, tandis qu'Israël peut en aligner 400 000. Mais on est encore très loin d'une guerre terrestre.
Merci beaucoup, Romuald Sura, d'avoir été avec nous en direct sur RFI.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Sir, sir, hands up. I'm Senator Alex Padilla. I have questions for the secretary. Because the fact of the matter is...
Ce que vous entendez en ce moment, c'est le sénateur Alex Padilla, expulsé de force d'une conférence de presse de la secrétaire à la sécurité intérieure sur la question des arrestations de sans-papiers à Los Angeles. Les images ont fait le tour du monde, le tour des médias américains. Hier, mis au sol et menotté par la police, le sénateur de Californie s'est exprimé quelques heures plus tard.
If this is how this administration responds to a senator...
Si c'est comme ça que l'administration répond aux questions d'un sénateur, on ne peut qu'imaginer comment ils traitent les travailleurs sans papiers dans les fermes, dans les cuisines, partout à travers Los Angeles et à travers la Californie.
Un juge fédéral lui a bloqué ce jeudi le déploiement par Donald Trump de la garde nationale en Californie. L'envoi de troupes avait fait monter la tension entre le président et le gouverneur démocrate de l'État après les manifestations et émeutes contre les arrestations et expulsions de migrants. Des opérations qui ont eu lieu dans des villes et États démocrates qui s'opposent aux politiques de Donald Trump, mais également dans le reste du pays. Ces opérations suscitent les craintes des migrants en situation régulière, mais aussi des migrants qui sont en situation irrégulière, mais aussi des migrants qui sont légalement aux États-Unis, comme l'a constaté Edouard Maille à Jesup, dans le sud de la Géorgie.
Benigno et Hector repeignent les bords d'une fenêtre dans cette petite rue commerçante, avec de temps en temps une pause à l'ombre. Originaires du Mexique, ils disposent des documents pour vivre aux États-Unis, mais ils craignent tout de même d'être arrêtés, comme l'explique le père.
Nous avions peur de venir ce matin, car on nous a prévenu que les autorités de l'immigration étaient près de chez nous. Nous avions peur de conduire, c'était vraiment difficile. Vous ne pouvez pas rester tranquille.
Il raconte le cas de personnes arrêtées pas loin d'ici, qui étaient pourtant nées aux États-Unis ou avaient des documents.
Ils les ont emmenés en détention pendant 15 à 20 jours, sans aucune raison.
Avec ce qu'il voit dans les médias, le fils trouve que les autorités de l'immigration sont plus agressives depuis le retour de Donald Trump.
Ils abusent beaucoup de leur pouvoir, car ils frappent les femmes, ils frappent les jeunes, ils ne te demandent pas si tu es ici illégalement ou illégalement, en fonction de votre physique, de votre visage, il voit que vous êtes hispanique et il vous arrête, sans raison.
Les deux se réjouissent des manifestations à Los Angeles contre ces arrestations, mais regrettent les violences, pillages et incendies. Edouard Maï, Jésus en Géorgie, RFI.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et aujourd'hui sur RFI, nous recevons le poète haïtien Benoît Daffry. Il vient de sortir Parole en état de siège aux éditions La Veilleuse. C'est son premier recueil de poésie. Et s'il vit entre la France, le Canada et Haïti, c'est bien Haïti qui influence son travail, comme il l'a confié à Marine de la Moissonnière.
Ce petit livre, il raconte un entre-deux, un corps qui traverse des frontières, pas nécessairement de Haïti. Voilà, un corps qui traverse des frontières, mais ne s'installe nulle part. Il parle d'exil, de mémoire, de transmission. Après, Haïti est évidemment la racine, mais même quand elle est loin, c'est une langue, une histoire, une brûlure aussi. Et j'écris depuis cet endroit compliqué, mais ça parle pas que de Haïti. Je ne cherche pas à représenter Haïti. Mais à dire, en tout cas, ce que cela fait de porter cet île en soi, en dialogue constant avec d'autres territoires. Parfois, on se dit quel est son rôle, qu'est-ce qu'on a à faire, comment on peut aider, comment on peut contribuer. Moi, c'était ma façon à moi de contribuer dans tout ce qui se passe, d'écrire ça.
Est-ce que quand vous dites de contribuer, d'aider, vous pensez à Haïti ou vous pensez à la situation du monde en général ?
Bon, ce livre n'est pas une réponse à la crise. Il emporte les échos, la poésie n'apporte pas de solution, il faut le dire, mais elle nomme. En tout cas, la mienne, elle nomme. Et parfois, nommer, c'est déjà résister. Haïti, certes, vit une crise multiple, politique, sécuritaire, tout comme beaucoup d'autres. Gaza, Palestine, il y a pas mal d'autres. Mais c'est aussi une crise de la mémoire, de la parole. Mais en tout cas, je tente, par tous les moyens, dans l'écriture en tout cas, de nommer ce qui se passe en Haïti, et de cibler surtout ce qui est à cibler, malheureusement, en Haïti. C'est-à-dire la crise, des crises politiques, sécuritaires, la sécurité surtout. La parole, la mémoire, une jeunesse assez, comment dire, handicapée de liberté d'expression, handicapée de liberté de création. Moi, j'ai la liberté d'écrire, même, enfin, dans ma petite case, mais au moins j'ai la liberté d'écrire, de m'exprimer et de nommer ce qui est à nommer. Alors qu'en Haïti, c'est pas facile de le faire. Et c'est tout l'intérêt de la poésie, parce que quand on ne peut pas vraiment faire grand-chose de manière concrète, c'est-à-dire sur le plan matériel, la poésie, est-ce qu'il reste quand le discours échoue ?
Mais malgré la situation dramatique sur place, il reste une vie culturelle en Haïti.
Il y a des festivals là-bas, il y a des activités, il y a pas mal de choses à faire en Haïti. Il y a certains concepts qu'on a, au fil du temps, qu'on a appris à redéfinir en Haïti. Le concept d'humanité. Si vous rentrez en Haïti, même s'il y a des balles qui tirent à gauche, à droite, vous allez trouver refuge. Et vous allez trouver quelqu'un qui rit quand même. Et c'est pas le rire jaune, un vrai rire. Donc, il y a quelqu'un qui va vous accueillir, même au milieu de tout cet enfer-là, si je puis dire. Donc, la vie culturelle continue, même dans les soubassements du pays, continue vraiment à frayer son chemin.
Est-ce que vous êtes en contact avec des artistes haïtiens qui sont toujours là-bas ?
Oui, j'ai pas mal de copains qui sont en Haïti. Il y a un grand poète qui s'appelle Argens Jean-Pierre, qui vit à Jacmel, qui organise des festivals, qui fait des allers-retours de Jacmel à Paris. Ils écrivent comme moi, ils dessinent leurs peurs, ils écrivent des prières en poésie. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent pas faire grand-chose. La seule différence entre eux et moi, c'est que eux, ils sont dans le tourbillon de l'affaire. Moi, je suis de l'extérieur. On fait la même chose, on dénonce, on nomme. Sans artiste, il n'y a pas de culture. Et sans culture, il n'y a pas pays. Donc, eux, ils ont cette conscience-là. Ils se disent peut-être qu'il faut rester pour que mon pays demeure.
Benoît d'Afrique, invité de RFI Midi pour la sortie de son premier recueil de poésie, Paroles en état de siège, aux éditions La Veilleuse. Notez également, si vous êtes en France, cette grande soirée, hommage à Franck Étienne, écrivain, peintre et penseur haïtien. Ce sera lundi soir au siège de l'UNESCO dans le 7e arrondissement de Paris.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on retrouve Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour.
En Martinique, la peine de Rodrigue Petitot a donc été réduite en appel. Le leader du RPRAC va tout de même se pourvoir en cassation.
Oui, c'est très vraisemblablement ce qu'il va décider, malgré la réduction de sa peine en appel de 10 mois de prison aménageable à 6 mois. Peine d'ailleurs déjà effectuée dans l'affaire de menace sur personne dépositaire de l'autorité publique. Écoutez la réaction de l'avocat du leader du RPRAC, maître Georges-Emmanuel Germani.
C'est une décision un petit peu mi-figue mi-raisin, un petit peu honteuse, parce que tout à la fois la cour réduit le quantum et fait qu'il n'y a plus histoire de bracelet ni histoire de prison. Il a déjà purgé une peine. Il fallait la confirmer pour éviter que ça coûte de l'argent à la justice. Et puis surtout, c'est l'idée qu'il conserve ses droits civiques. Mais dans le même temps, on essaie de l'humilier en disant publication de la décision. Mais fondamentalement, la Cour d'appel sait très bien que le combat continue et qu'on ira en cassation pour critiquer cette décision que j'ai hâte de lire, pour savoir de quelle manière ils ont échappé au respect du droit et notamment de la Convention européenne des droits de l'homme.
La proposition de loi visant à reconnaître la responsabilité de l'État et à indemniser les victimes du scandale du chlordécone a passé l'étape du Sénat. La Chambre haute a adopté à la quasi-unanimité le texte du député de la Guadeloupe, Élie Califère, tout en lui apportant d'importantes modifications. Écoutez la réaction de maître Christophe Léguevac, avocat des parties civiles. Il était ce matin en direct sur la première Martinique.
Le texte de l'Assemblée nationale parlait de la République française qui reconnaît sa responsabilité. Et à l'Assemblée et au Sénat, il s'est transformé, c'est l'État, maintenant non plus la République, qui reconnaît sa part de responsabilité. Mais il n'est rien dit sur les autres contributeurs, les autres fautifs, les autres responsables. Et eux, on ne sait pas comment ils vont être un jour appelés à contribuer, à réparer les dégâts considérables qu'ils ont réalisés. De la même façon, ce texte, c'est plus un texte qui tend à filtrer l'indemnisation plutôt que de la rendre effective. Je m'explique. Certes, il reconnaît que les victimes de la contamination professionnelles ou non, pourront être prises en charge. Mais en revanche, il limite l'indemnisation aux victimes dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique. Est-ce que ça veut dire que les membres de la diaspora qui vivent dans l'Hexagone sont exclus de cette prise en charge? On ne sait pas. Et surtout, on ne sait pas du tout comment ils seront pris en charge. On nous dit qu'une commission va se réunir dans un an pour faire le point sur la situation. Mais on n'a pas encore le début d'un centime qui va venir indemniser les victimes.
Bon après-midi, bon week-end, à lundi.
Bon week-end à vous aussi Benoît et à lundi. Merci d'avoir écouté RFI Midi. Tout de suite, c'est la suite des programmes sur RFI.
Carrefour du Maghreb.
Un voyage dans le temps, dans l'histoire de Nouakchott.
Juliette Rangeval.
La capitale mauritanienne, capitale nomade, est sortie des dunes du Sahara en 1958. Premiers bâtisseurs, premiers habitants nous racontent la transformation sans fin de cette ville entre océan et désert.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.